Salut Pascal.
Salut Yann.
On a rendez-vous aujourd'hui
au récepteur. C'est un bistrot qui est pas très loin de la maison de la radio et on va retrouver notre invité.
Ah bah je crois que je l'aperçois, donc je devine qui c'est.
Il nous fait un petit coucou.
C'est Thomas VDV.
Voilà. Et le temps de traverser la rue.
On s'écoute un petit morceau.
Un petit morceau de Igor, Very Noise.
Story.
Bienvenue à tous pour une nouvelle Metal Story, le podcast qui vous révèle l'âme métallique de personnalité. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir monsieur Thomas VDB.
Metal Story avec Yann et Pascal.
On est en mission pour le Seigneur.
Bonjour Thomas.
Bonjour les amis, merci de m'accueillir.
On est dans un bar aujourd'hui pour se mettre un petit peu dans l'ambiance un peu festive.
Je confirme qu'on est bien dans un bar.
Et oui, c'est ça. Donc il y aura du café, des demi
et des bruits de percolateurs.
Alors au sommaire de cet épisode, nous allons revenir un peu aux origines du mal qui t'ont fait découvrir le métal. Ensuite on fera un petit crochet par le live after death, c'est-à-dire en quoi le live a influencé ton parcours métallique, okay. Et quelles sont tes expériences par rapport à ça. Overkill, on viendra sur le groupe absolu de tous les temps, en tout cas un des groupes qui a marqué ton parcours. Sofrench, un petit détour par la scène française, parce qu'on tient à faire un petit coup de projecteur sur cette scène-là. Le Wall of Death, qui sera un questionnaire de rapidité et de sagacité. Et wow. Puis il sera temps de nous dire au revoir après tout ça.
L'origine du mal.
Ça promet, c'est le titre de la rubrique, vraiment, et là, bon, on va aller rencontrer Lucifer. Non, les gars, attends, on est dans 16e à Paris. Là.
Exactement. On revient aux origines du mal.
Ouais.
Comment tu es tombé dans le métal et comment ça s'est passé pour toi, petit ?
Moi, d'abord, alors, dans le métal, avant, bon, donc, je suis arrivé dans le métal par un pote à moi qui m'avait copié le Greatest Hits de Queen, auquel, donc, c'est un truc que j'ai déjà raconté plusieurs fois, oui. Mais auquel il manquait la fin d'Under Pressure, et donc il m'a copié ça, donc j'étais content parce qu'enfin j'avais l'intégralité du Greatest Hits avec Under Pressure. Et puis, donc il m'a dit, mais viens chez moi, j'ai plein de disques, et j'arrive chez lui, et là je vois, en fait, là où moi j'avais les moyens de m'acheter un CD tous les 6 mois, quoi, tu vois, j'avais pas de thunes, donc j'avais préféré m'acheter des cassettes vierges pour faire des copies. Enfin, en fait, c'est arrivé en allant chez lui, parce que lui, je voyais, il avait des centaines de CD de hard rock, ouais. Qui était un style que j'ignorais complètement. Alors il commence à me parler d'ACDC, de Metallica, de Megadeth, d'Aerosmith, parce que son père lui-même était fan d'ACDC, donc j'étais là, putain, ton père il est fan d'ACDC, mais ça n'existe pas ça dans la vie, quoi. Moi, mes parents, ils n'étaient pas du tout fans d'ACDC, parce qu'il m'a copié Highway to Hell et Back in Black et Led Zeppelin Rock, et je suis revenu chez moi, et je m'envoie écouter Back in Black très fort chez moi, et ma mère, elle me dit, mais c'est horrible ce truc. Et donc, c'est la première fois, alors que j'étais un grand fan de... Enfin, je croyais, j'avais 12 ans, donc je croyais être un fan de cinéma, ouais. À l'époque, parce que je lisais les magazines de cinéma, j'étais abonné aux fiches de Pierre Tchernia, des trucs comme ça. Mon pote me fait découvrir l'existence, non pas d'une presse musicale, parce que je savais que Best et Rock et Folk existaient, mais mon pote, il me dit, mais tu sais qu'il y a Hard Rock Magazine, Et donc, ils arrivent à dire des trucs tous les mois sur les groupes de Hard Rock. Donc, ils m'emmènent à la maison de la presse de la ville 2. Donc, la ville 2, c'est là où j'ai grandi, c'est D'EU, ça s'écrit EU, la ville, EU, la ville E. Et donc on va à la maison de la presse et je vois un rayon que j'avais complètement occulté jusque-là où il y a Hard Rock Magazine, il y a Hard Force, Il y a Metal Hammer. Et donc, gros coup de chance, il y a deux gros articles sur Queen à ce moment-là. Donc, parce qu'en plus, je j'avais aucune info sur Queen à l'époque. Ouais. Moi, tu vois, pour avoir des infos sur Queen, il fallait que j'aille sur Wikipédia, mais ça n'avait pas encore été inventé.
Non, ça n'existait pas.
Donc je me dis, bon allez, je pète la tirelire, j'achète Hard Rock Magazine et Hard Force Magazine. Yeah. C'est-à-dire 50 francs, quoi, autant dire. Un mois d'argent de poche passe en entier. Et là, je découvre, alors donc je me souviens très bien qu'il y avait Nikki Sixx de Motley Crue en une, parce que c'est l'époque où Motley Crue sortait son album Dr. Feelgood. Et je vois les photos de Motley Crue, mais je me dis, mais qui sont ces sauvages? J'étais
avec
là
leur
mais avec leur coiffure, puis ils faisaient des photos complètement décadentes avec du ketchup et de la bière et des meufs à moitié à poil et tout.
Et on censurera ça parce que c'est pas très mythique.
Bah non, mais j'espère, c'est pas des... bah, le métal, excuse-moi, mais si tu reprends l'histoire du hard rock en général, je pense que s'il y a MeToo qui passe par là, ça va faire
ça
mal.
Va faire mal.
Donc c'était avant Nirvana. Moi je découvre le hard peu de temps avant les sorties de Use Your Illusion
de Guns N' Roses.
Donc voilà, tous ces groupes par lesquels j'arrive, c'est mon copain de collège, Nicolas Blondio qui s'appelle, qui me fait des copies de Motley Crue, de Guns N' Roses, d'ACDC, Aerosmith, et donc je me prends tout ça dans la gueule. Et en fait, pour moi, avant d'être des disques que j'écoute, parce qu'un disque, il faut l'écouter plusieurs fois avant que ton oreille s'y fasse, que tu t'accroches au morceau et tout, c'est quand même ces deux magazines que j'ai achetés, que je consulte énormément, et je vois que des mecs avec des cheveux longs, et je me dis, mais quelle est la différence entre Motley Crue et entre Poison, parce qu'on parlait de Poison et ça parlait de Slayer aussi. Moi j'étais là, mais c'est juste des mecs qui ont des cheveux longs, alors j'étais là, il n'y a pas de différence entre Poison et Slayer. Et à cause du nom, je pensais que Poison est un horrible groupe, vraiment
hardcore.
Il s'appelle Poison, je me disais que ça allait être insupportable à écouter. À cause des photos, je pensais que Motley Crue, c'était de la musique hyper agressive, alors qu'en fait, aujourd'hui, Motley Crue comme Poison, c'est pour être des trucs qui passeraient à la radio.
C'est
quoi.
C'est clair.
Donc voilà, ça c'est la porte d'entrée. C'est donc c'est du air metal et du hard rock classique des années 70.
Et quoi. Est-ce que derrière ça, il y a une envie de rébellion? Est-ce que c'est ça qui t'amène au metal aussi?
Absolument pas.
Absolument.
Désolé
non,
de te dire
intéressant
vraiment,
parce que...
Non, vraiment, j'ai jamais associé le hard rock à la rébellion, sauf quand je lisais des articles qui associaient eux les deux, ou quand je voyais des documentaires qui disaient, voilà, ça c'était des groupes de vrais rebelles et tout. Quand je voyais des trucs sur Lemmy de Motorhead, j'étais là, ok, lui il est vraiment... Il est en colère quoi.
Ouais.
Mais moi j'étais pas en colère, j'étais
c'était
content.
Pour le fun.
C'était pour le fun,
pour
exactement.
Le fun, pour le fun.
Ouais, ouais.
Donc premier poster dans ta chambre, c'est.
Oui, et puis en 1991, je déménage, en fait je quitte la Normandie pour aller habiter en Touraine. Et en fait, là j'ai 14 ans, je suis en pleine crise d'ado parce que mes parents me font quitter en fait ma bande de potes de Normandie. Quoi. Mmh. Donc, et j'arrive donc à Chinon à l'époque. Là je prends tous les magazines de hard rock que j'avais parce que du coup je m'étais mis à en acheter plein. Et je recouvre tous les centimètres carrés des murs de ma chambre de toutes ces photos. Oui, alors ça allait de Dave Lombardo de Slayer à Nuno Betancourt de Extreme. Parce qu'en fait, quelque part, comme j'arrivais de Queen à la base, qui est le groupe qui a vraiment été le truc par lequel tout est arrivé, moi j'ai toujours été quand même sur les trucs plus mélodieux, plus... Alors j'ai jamais écouté de hard rock progressif, mais j'ai ma Extreme à l'époque...
Ouais.
Alors je sais que c'est une blague pour plein de gens parce que More Than Words, mais moi le deuxième album d'Extreme et le troisième d'ailleurs, je l'ai trouvé vraiment démentiel ces disques. Et puis c'est le moment où Metallica fait le Black Album, donc j'adorais Master of Puppets et inexplicablement aussi Injustice for All qui est quand même un de leurs trucs les plus rêches. Mais le Black Album aplanit un peu tout ça et je me dis, au moment où sort le Black Album, je me dis c'est le truc le plus hard que j'ai écouté de ma vie, que j'adore quoi.
Et tu prends une tarte sur Angel Dust.
Et alors je prends une tarte absolument sur Angel Dust de Face No More et je vois des articles sur eux dans ces fameux magazines que j'accumule chez moi. Donc je lisais plus d'articles sur les groupes que je n'écoutais les groupes en vérité. Mais et donc je vois que en fait Mike Patton il a les cheveux longs mais il s'est rasé sur le côté. Je dis putain mais c'est un groupe de hard un peu différent. Et je comprends qu'il y a des accointances avec le rap et tout en lisant les articles. Donc je découvre un peu tardivement Face No More mais... Et en fait, à l'époque, je suis abonné à Best et ils font l'album du mois. Et donc, je lis cette critique qu'il y a dans Best sur Angel Dust de Face No More, où ils disent que c'est un album qui a 20 ans d'avance. Et je me procure Angel Dust. Et quand je l'écoute aujourd'hui, parce que ça fait partie de ces disques que j'ai écoutés gamin, que je continue d'écouter aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu rentrer dans un disque comme ça à l'époque? Parce que j'écoutais vraiment des trucs qui étaient vraiment plus faciles d'accès et tout. Et là, t'écoutes Angel Dust, je suis incapable de trouver un disque qui ressemble à Angel Dust. Quoi. C'est vraiment...
unique.
vraiment de la mélasse de métal mélangé avec du death, avec du rap des fois. Enfin, c'est, et voilà, c'est vraiment un disque fondateur de beaucoup des choses que j'ai écoutées par la suite, parce que le catalogue de Faith No More, c'est pas que du hard rock. Et puis que, quand tu découvres Mike Patton, qui est le chanteur, et que tu t'intéresses un peu à tout ce qu'il a fait à côté, en fait, Mike Patton et Faith No More ont été là, m'ont ouvert des portes sur plein d'autres genres musicaux en fait à l'époque. Mais Angel Dust particulièrement, ce disque, est un disque qui m'a énormément marqué.
Caffeine, donc sur l'album Angel Dust de Faith No More, et nous sommes toujours donc avec Thomas, et on va s'intéresser maintenant à son histoire avec le live et la scène.
Alors Thomas, est-ce que tu te souviens de ton premier concert de métal?
De métal. J'aurais dû... Alors mon premier concert de hard rock vraiment c'est Aerosmith.
Oui,
Aerosmith. Tournée Get a Grip, ouais, Get avec Grip. Extreme d'ailleurs en première partie, qui avait joué des extraits de leur album paru seulement un an plus tard. Et donc j'ai découvert en avant-première des morceaux d'Extreme. Mais bon, le concert d'Aerosmith m'avait scotché. Et surtout, dès qu'ils étaient arrivés sur scène, j'étais là, ouais, c'est Aerosmith en vrai.
Oui,
c'est-à-dire qu'en fait, la première fois que tu vas à un concert et que tu vois un groupe que t'adores en vrai, t'es là, putain, ils sont là en vrai.
Et l'un des groupes que tu as vu plus récemment, qui t'a vraiment mis une claque, toujours dans le style, on va dire, hard rock, metal, new metal, enfin...
Alors, honnêtement, les mecs, là, vous me... Alors, si. Ah, tiens. C'est marrant parce qu'en fait, des concerts, j'en ai beaucoup fait quand j'étais journaliste. Trop, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est un point... des fois, je traînais les pieds en allant au concert parce qu'en fait, c'était des concerts que j'avais pas forcément hyper envie de voir, mais qu'il fallait que je voie pour le boulot.
C'était le boulot.
C'était des endroits où il fallait que je sois. Et donc, à un moment, ça m'a un peu... distancié des concerts.
Ouais.
Et en fait, la passion de la musique est revenue intacte dès lors que j'ai quitté mon métier de la musique. C'est ce que je raconte dans le livre que je viens de sortir. Mm-hmm. Et il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, donc des concerts, donc là, il y a eu un confinement, mais avant ça, des concerts, j'en avais fait un peu, mais pas de métal spécialement. Mais il y a 3-4 ans, je suis allé au Primavera Sound à Barcelone avec avec un meilleur pote. Et en traînant, on est tombé sur un groupe, alors qui, je crois, a fait des premières parties de Metallica depuis. Je vais avoir du mal à le prononcer. Hein. Je crois que c'est Vers l'attaque. Et alors, mais on se retrouve devant ce groupe, et nous, on était dans un festival, on était un peu flappy, et on se prend ce groupe de métal, mais des tartes dans la gueule, quoi. Et après, j'ai réécouté en disque, j'ai trouvé ça hyper bien, mais... C'est pas des trucs que je peux mettre en boucle comme ça dans les oreilles maintenant, mais alors vraiment en concert ça m'avait mis une grosse tarte.
Et dans les groupes artistes que tu aurais voulu voir,
je pense que Led Zeppelin quand même.
Led Zeppelin, on y vient. Ouais.
C'est un des groupes sur qui j'ai le plus longtemps accumulé de la frustration de ne pas les avoir vus. Je peux pas te dire que c'est pas mon rêve de voir Led Zeppelin.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que j'ai tellement écouté Led Zeppelin quand j'étais ado. Que c'était fou de se dire maintenant c'est fini, il n'y aura plus jamais Led Zeppelin en concert. Et j'ai connu, j'avais le père d'un de mes potes qui avait vu Led Zeppelin en concert, alors il nous racontait ça, et il se fout, quels que soient les trucs qu'on écoutait, il dit ouais ça vaut pas Led Zeppelin. Sinon un groupe vraiment pour qui j'ai un amour total depuis toujours, qu'un groupe de hard rock en l'occurrence s'appelle The Cult. The Cult, en fait la passion pour The Cult est arrivée au début des années 90, au moment de l'arrivée du grunge. Et j'étais assez fier d'être tombé fan d'un groupe dont personne n'était fan dans mon lycée, parce que tout le monde ne jurait que par Guns N' Roses ou Nirvana à l'époque. Et alors j'adorais Guns N' Roses, j'adorais Nirvana, mais j'étais complètement fan de The Cult, et je trouvais que ça me donnait un côté un peu original, déjà d'avoir un groupe préféré qui n'était pas celui de tous les autres. Donc The Cult, je les découvre un petit peu au moment de la sortie de Cérémonie, qui est loin d'être leur meilleur album, mais surtout au moment de la sortie du premier best-of qui s'appelle Pure Cult, dont les 5 ou 10 000 premiers exemplaires sont vendus avec un live qui est le live au Marquis.
Ouais.
Qui commence par une version tonitruante de ce morceau qui s'appelle Nirvana, qui est le morceau d'ouverture de leur album Love. Mm-hmm. Et voilà, et en fait The Cult, c'est un groupe dont il y a eu des hauts et des bas.
Oui, avec des styles quand même, des influences très différentes. Hein. Bah, on va s'écouter tout de suite du coup un extrait de ce live incroyable au Marquis. 91, The Cult, Nirvana. We'll be right back. Bien, Thomas, on commence à en savoir un peu plus sur ton âme métallique. Alors maintenant, si on te pose la question du groupe ultime, là, c'est de manière intemporelle, c'est-à-dire l'album, le groupe qui, au final, t'aura marqué, ou dans la catégorie métal, évidemment, hein, on sait que t'aimes beaucoup de choses.
Ouais, ouais. Je...
T'es très éclectique.
Ouais.
Même plus gothique que métal, parfois, ou un peu électro aussi, d'ailleurs.
Bah, aujourd'hui, très... Enfin, vraiment, c'est beaucoup de pop et de power
de pop.
Pop et de punk et de post-punk et trucs comme ça. Mais... si je fais la synthèse un peu tous les trucs que j'ai écoutés, alors je disais qu'Angel Dust de Faith No More, c'est un disque que je continue d'écouter aujourd'hui, un autre disque vraiment très métallique qui m'arrive encore d'écouter et qui rassemble plein de choses qui étaient fantastiques à cette époque-là au moment de sa sortie, c'est Roots de Sepultura.
Ah bah oui.
Parce qu'il rassemble, il est à la croisée de plein de trucs que j'aimais à l'époque. Sur cet album, il y a le chanteur de Korn qui est invité. Ouais. Et j'avais monté le fan club de Korn parce que j'étais tombé en adoration devant le premier album et devant les deux premiers d'ailleurs. J'ai décroché un petit peu plus, assez vite après. Et donc Roots de Sepultura, en fait, c'est un pote à l'époque, quand je traîne beaucoup, j'habite à Tours à l'époque, et j'ai un pote qui tient un magasin de disques, une boutique au CD, tu sais, qui vend des CD d'occasion, qui cartonnait à l'époque. Et ce pote, et donc je vais chez lui souvent fumer des pétards le soir, et puis on écoute du métal, puis lui il est fan de dub aussi, donc il me fait découvrir des trucs de dub. Et puis il est tombé en adoration devant Biohazard et Sepultura, et tellement fan de Sepultura, qu'il se fait tatouer Sepultura.
Ah oui.
Au moment, genre après Roots quoi.
Le logo ou le nom
le S de Sepultura.
Ah le logo,
S.
Ouais.
Le S, mais genre super beau logo tribal et tout. Et genre deux mois après, Max Cavalera quitte Sepultura.
Et, oui.
Et là t'as envie de dire, ah c'est quand même, c'est comme qu'il te fait tatouer le nom de ta meuf et qu'elle te quitte un mois après quoi.
Pareil.
Et c'est marrant parce que tu vois, ouais je m'en fous, c'est dans la tête.
Ah ouais,
non, c'est pas dans la tête, c'est sur la peau. C'est sur la peau.
C'est ça. Ça reste un peu.
Et je pense que c'est pas étonnant ce choix parce que, enfin, on sent bien que t'aimes bien, on va dire les groupes qui sont un peu audacieux, qui tentent des choses, qui expérimentent, qui sont un peu à la croisée des styles aussi.
Ouais.
Et Roots, c'est vraiment l'album expérimental. Enfin, en tout cas, il est souvent jugé comme ça.
Mais Roots, quand même. Cas, ouais. J'avoue que c'est quand même un des plus grands disques de métal que je suis capable de réécouter aujourd'hui. Au même titre qu'Angel Dust, il y en a pas beaucoup des trucs que je me remets de temps en temps, mais celui-là en fait partie.
Bon bah du coup, on va s'écouter. Look Away, hein, de l'album Roots, Sepultura. We'll be right back.
Sepultura, Look Away, du cultissime album Roots. On va passer un petit peu du côté de la France, de l'Hexagone. C'est une rubrique qui nous tient à cœur, la partie So French, scène française. Une scène riche qu'on oublie un petit peu parfois, mais qui depuis quelques années est revenue très fort. Et on voulait un peu te poser des questions sur ce sujet-là, mon cher Thomas. Est-ce que déjà c'est une scène qui t'a à un moment donné interpellé ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a touché à un moment ?
Alors oui, alors la scène française, ça
métal évidemment.
Bien sûr, j'ai bien compris. Oui. Mais ça, elle date, elle a commencé, enfin je sais pas, pour moi les premiers trucs de hard rock français, c'est début 80. Enfin, ouais. c'est là qu'on le sait Trust, c'est Vulcain. Mais en vrai, je m'y suis intéressé, je l'ai écouté à l'époque où j'ai commencé à écouter Faith No More, Korn et tous ces trucs-là. En France, il y avait. Il y avait Lophophora, No One Is Innocent, il y avait Massisteria.
Et alors pourquoi Cobra ?
Parce que déjà, je suis très intrigué par ce groupe.
Ouais.
Quand tu tapes Cobra dans Google, tu as des photos d'eux, mais j'arrive pas à savoir si c'est des photos qu'ils ont volées à des gens, ou c'est pas eux sur les photos,
c'est ça.
Ou si c'est des mecs qui ont décidé de jamais apparaître en photo. Et puis ce morceau précis là, qui est mon choix, qui est un
des lieux associatifs pour les jeunes, qui pourrait être un slogan de la CGT presque.
Exactement.
Quasiment.
Et donc ce morceau de Cobra, en fait je l'ai choisi parce qu'à chaque fois que je l'entends, je suis re-intrigué. Alors parce que je le trouve c'est un tube, il accroche tout de suite. C'est un morceau de métal que je suis capable d'écouter encore aujourd'hui. Ça fait partie de ces morceaux-là qui me scotchent aujourd'hui. J'écoute plus trop Lophophora ou Pelemo, tu vois. Mais vraiment ce titre il me fascine parce qu'en fait le groupe me fascine, je trouve qu'ils arrivent à cultiver un espèce de secret autour d'eux, on sait pas où ils jouent, quelle gueule ils ont, quel âge ils ont, et je trouve ça assez intriguant.
On va s'écouter ce petit extrait des lieux associatifs de Cobra, un groupe donc né en 84 du côté de la Côte d'Azur.
Mais comment en est-il ?
Des filles en short sur le bord de l'autoroute, des seringues sur la plage en plein mois d'août, des milliers d'ados en crise identitaire. Perte de confiance sans aucun repère. Fugueuse de 13 ans en quête de sensations. Éducateur pour répondre à tes questions. Des centres de formation pour les DJ. Musique techno et drogue pour t'évader. Une culture en marche pour te démarquer. Quelques grammes d'héros pour te réchauffer. Un regard neuf sur la société. Un regard neuf sur la sexualité. Le communisme pour concert gratuit. Atelier bio animé par des hippies. Des anciens toxicos animés des mains. Des maîtres titres font du bénévolat. Des cours de judo gratuits dans ton quartier. Dans ton Walkman, le dernier labillier. Quelle solution au problème des jeunes d'aujourd'hui? Il y a des lieux associatifs. Associatif pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Un accueil pour ceux dont personne ne veut plus. Un abri pour ceux qui galèrent dans la rue. Un regard neuf sur la société. Quelle solution au problème des jeunes d'aujourd'hui? Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs.
Cobra, des lieux associatifs pour les jeunes.
Bien, mon cher Thomas, et pour finir cette Metal Story, c'est la tradition, on va te soumettre à la question. Et on va te donc passer l'épreuve tant redoutée du Wall of Death. Okay. C'est parti.
The Wall of Death. The Wall of Death. of
Death. Alors Thomas, première question, est-ce que t'es plutôt Axl Rose ou Vince Neil ?
Vince Neil, sans conteste, il n'y a pas photo.
C'est la coiffure ou c'est le...
Je suis plus Motley Crue, Guns N' Roses, donc voilà, je réponds très facilement. Mais tu sais qu'ils voulaient se battre, ils voulaient organiser un combat sur un ring dans les années 80.
C'est pour ça qu'on pose la question.
Ouais, j'étais pour Vince Neil, j'étais clairement pour Vince Neil.
Avant Booba et Caris, bien avant.
Ouais, c'est ça, c'est les bien ancêtres avant. Un peu.
Plutôt Korn ou Deftones ?
Plutôt Korn quand même. Ah. Même si sur la longueur, je pense que les Deftones, c'est peut-être plus intéressant. Enfin, entre les deux premiers Korn et les deux premiers Deftones, j'aime mieux les deux premiers Korn quand même.
Okay.
Alors le matin, côté humeur, t'es plutôt Ugly in the Morning ou Cuco for Caca ?
C'est vraiment les deux titres où il fait le plus de bruit dégueulasse avec sa bouche, Mike Patton de Faith No More sur certain album. Je dirais Ugly in the Morning. Don't look at me, I'm ugly in the morning. Je me souviens très bien.
Si tu pouvais passer une journée avec un artiste ou une artiste de tes rêves,
wow.
et une nuit aussi.
Et une nuit.
Mais d'abord la journée.
On va commencer tranquille.
Une journée avec un artiste de mes rêves. Bah tiens, j'aimerais bien passer une journée avec un mec de Oranzi Pazuzu.
Ah.
Parce que j'aimerais beaucoup leur en savoir plus sur ces mecs-là, comment ils en sont arrivés à mélanger un métal aussi brutal avec des influences psychées qui habituellement ne sont pas du tout dans cet univers-là. Je passerai pas la nuit avec
eux. Pas la nuit.
Je passerai la nuit avec eux. Putain, il y a une chanteuse qui est hyper belle. C'est pas très mitou ce que je vais dire.
Non, mais si.
En général, les chanteuses de métal symphonique sont pas mal.
Oui,
ouais, c'est une chanteuse de métal symphonique que je me suis...
Mais attention,
une chanteuse de métal symphonique italienne.
C'est ça.
N'importe laquelle.
On achète. Alors, t'es plutôt vinyle, CD ou streaming ?
C'est marrant parce que chez moi, ce dont j'ai le plus, c'est des CD. Pourtant, ce que j'achète le plus, c'est du vinyle. Et ce que j'écoute le plus, c'est du streaming.
Et t'es plutôt métal drôle ou métal sérieux ? T'as un petit peu répondu à la question, donc plutôt Ultra Vomit ou Gojira ?
Alors, sur le papier, le métal drôle, ça me fait pas trop marrer.
C'est vrai ?
Ultra Vomit, j'ai rien contre, hein. Je suis content de savoir qu'ils existent, mais je pense que si je commence à écouter, ça va me saouler en désordre.
Ouais,
enfin, j'aime bien l'initiative d'un groupe de métal drôle. Mais bon, après, si t'écoutes du métal, c'est pas pour faire des blagues en même temps. Même si l'humour... En musique, c'est un truc qui est assez rare, que ce soit chez les Sparks, qui sont des idoles à moi, ou chez Zappa.
Il y a un second degré, troisième degré.
Il y a un second degré, mais c'est hyper dur d'avoir un second degré qui parle en musique.
Carrément.
Et donc, quand c'est Ultra Vomit ou c'est Gronibar et tout, bon, ça fait marrer 5 minutes. J'aime bien. En fait, l'idée qu'ils existent me fait plus marrer que de les écouter en réalité.
Eh ben, merci Thomas pour ces questions-réponses Wall of Death.
J'espère que c'est assez rapide. Merci.
Parfait. Bien, il nous reste à remercier notre invité, donc Thomas. On a vraiment passé un super moment
avec toi.
Merci
beaucoup Thomas.
Merci monsieur.
Tu viens de sortir un bouquin qui s'appelle Comédien de Rhapsody, qui est super, aux éditions Flammarion. Donc, bravo pour ça. Tu es aussi en tournée en ce moment, donc avec Thomas,
avec
VDB s'acclimate, parce que tu t'acclimates.
Écoute, je fais du mieux que je peux, mais pour avoir la réponse, en même temps, il faut venir voir le
spectacle. Voilà, exactement.
C'est ce que je recommande.
On va dire ça. Ouais. Et puis, évidemment, on peut t'écouter à la radio, notamment sur France Inter.
Absolument.
Pascal.
On remercie nos partenaires.
Voilà, donc l'Anami et puis
l'Assassin qui nous soutient aussi. Voilà, exactement. Et on se quitte avec un morceau qu'on aime beaucoup de Slift, ce trio toulousain avec Amon.
Je vous soutiens, les mecs.
Merci infiniment, Thomas.
Merci.